Et ça marche tout seul?
Oui, ça marche tout seul.
Bon, alors c'est bien.
On va éteindre le ventilateur.
Oui, non, je suis toujours très contente d'être à Poitiers. J'ai fait connaissance avec Poitiers dans ma jeunesse, comment s'appelle, le cycle du mois de juillet du Centre d'études supérieures de civilisation médiévale. La session d'été, donc je ne sais pas, c'était en 73, quelque chose comme ça, 1973. J'avais participé à cette session d'été, donc j'avais eu l'occasion de bien connaître Poitiers. Voilà, et puis je suis revenue pour le centre Manès France. Donc l'intérêt pour les sciences durant le haut Moyen-Âge. Comparé aux trois conférences qui vont suivre dans ce cycle consacré au Moyen-Âge, ma conférence a un sujet austère. La minéralogie, la gastronomie ou le savoir géographique parlent sans doute plus à l'imagination qu'une interrogation sur un thème aussi abstrait que l'intérêt pour les sciences durant le haut Moyen-Âge, c'est-à-dire durant la période médiévale qui passe pour la plus opaque. Pourquoi donc avoir choisi pour inaugurer ce cycle, qui célèbre le 10e anniversaire du séminaire « L'homme et le monde au Moyen-Âge », un sujet aussi austère? Bon, je ne vous cacherai pas que le fait que j'ai mis ce thème au programme de mes conférences de l'École pratique des hautes études depuis 2 ans a joué un rôle dans ce choix. Mais ce n'est pas l'unique raison, car j'aurais pu aussi bien vous parler de médecine ou d'introduction de la science arabe en Occident, des sujets que je ne maîtrise pas trop mal. Donc, il y a 2 autres raisons majeures à mon choix liées à l'endroit où nous nous trouvons. Le Centre d'études supérieures de civilisation médiévale de Poitiers, depuis sa création, et notamment par le canal de la revue Cahiers de civilisation médiévale, s'est fait une spécialité de cette période, du moins de la fin de celle-ci, de ce moment de transition entre le 10e et le 12e siècle, qui fait passer d'un monde à un autre, et pour le sujet qui nous occupe, du monde des monastères et des écoles cathédrales à celui des universités. Dans le domaine des sciences, les universités furent à la fois des lieux d'innovation, de réflexion, mais aussi d'encadrement des savoirs, voire d'exclusion. L'alchimie, par exemple, n'y eut pas sa place, du moins, non plus que la chirurgie, pas vraiment. Enfin, l'alchimie, donc, n'y eut pas sa place, du moins, n'y eut-il pas d'enseignement qui lui fut officiellement dédié. Néanmoins, d'une part, l'alchimie apparaissait dans des débats multiples d'ordre philosophique. D'autre part, elle put s'infiltrer dans d'autres savoirs, médicaux par exemple. Donc par ses choix et par ses exclusions, l'enseignement universitaire, qui s'est développé à partir du XIIIe siècle, a infléchi de manière fondamentale le cours de l'histoire intellectuelle et tout particulièrement de l'histoire des sciences. Mais la création des universités, l'introduction d'un enseignement du quadrivium et de la philosophie naturelle à la faculté des arts, la fondation de facultés de médecine, ne furent pas des générations spontanées. Elles intervinrent dans le cours d'une longue évolution, dont le renouveau du XIIe siècle, avec ses mouvements de traduction du grec et de l'arabe, ne suffit pas à rendre compte. Il faut aussi porter son regard sur les siècles antérieurs. Donc, première raison de mon choix. L'autre raison majeure du choix du sujet d'aujourd'hui est elle aussi liée à l'endroit où nous nous trouvons. L'espace Mendès France a pour vocation d'offrir des informations et de susciter une réflexion sur la place des sciences dans la société et dans la culture. L'histoire des sciences prend sa place dans ce projet, non seulement pour remettre en perspective les acquis et les interrogations d'aujourd'hui, mais aussi pour nourrir plus largement une réflexion sur ce qu'est la science et ce qu'on attend d'elle. Dans un numéro spécial des cahiers de civilisation médiévale, daté de 1996, qui était consacré à la recherche sur le Moyen-Âge à l'aube du XXIe siècle, j'avais posé la question suivante en tentant d'y répondre. Quelle histoire des sciences pour la période médiévale antérieure au XIIIe siècle? C'est à une sorte de remake de cet article que je vais me livrer aujourd'hui, un remake, mais pas du tout une répétition. Rassurez-vous, de toute façon, moi, je suis incapable de me répéter. Je radote peut-être, mais je n'aime pas me répéter. Donc, la période antérieure au XIIIe siècle, et plus encore celle antérieure au XIIe siècle, dont je vais parler aujourd'hui, pose avec acuité à l'historien des sciences la question de la définition de son objet. Une question qui se pose, en fait, si on y regarde bien, pour toutes les périodes, jusqu'à un stade très avancé de l'époque moderne, mais qui, pour ces siècles, est encore plus problématique. Si l'historien limite son objet à ce qui peut strictement être considéré comme scientifique, et dans ce cadre strict, s'il tente de déceler des innovations, il n'a que peu à dire et peut rapidement refermer le chapitre du Haut Moyen-Âge. Mais en faisant cela, aura-t-il contribué à l'écriture de la longue histoire de la pensée scientifique, des conditions de son développement et de son insertion dans des cultures et des sociétés? En outre, s'il est plus médiéviste qu'historien des sciences, ce qui est, me semble-t-il, mon cas, aura-t-il vraiment rendu compte des intérêts intellectuels de la période qu'il étudie? La période antérieure au XIIe siècle, en obligeant, si j'ose dire, à ratisser large, offre un cas extrême pour tenter de définir ce que doit mettre l'historien des sciences dans son champ d'étude, au-delà de tout a priori philosophique et de tout esprit de système. C'est un peu de l'ordre du tâtonnement empirique, à la recherche de ce qui fait sens, à la fois pour comprendre les enjeux propres à une période déterminée et pour repérer ce qui peut s'inscrire dans la longue durée des interrogations qui, à l'aune des élaborations des siècles postérieurs, ont modelé la démarche scientifique et son contenu. Donc, le Haut Moyen-Âge forme une sorte de cas extrême de la difficulté de définir le scientifique. Dans son chapitre sur l'histoire, dans son chapitre sur la science dans l'Occident médiéval chrétien, de l'histoire générale des sciences dirigée par René Tatton, dont la première édition parut en 1957, la seconde en 1966, Guy Beaujouan, qui nous a malheureusement quittés il y a un an, distinguait quatre phases dans la période médiévale. Je cite, première phase, les ténèbres du Haut Moyen-Âge, du 5e au 10e siècle. Deuxième phase, le réveil de l'Europe et les influences islamiques, 11e, 12e siècle. Troisième phase, l'essor des universités et l'âge d'or de la science scolastique, 13e siècle et début du 14e. Quatrième phase, la décadence des universités et l'interdépendance des sciences et des techniques, 1350-1450. Il est probable que s'il avait écrit ce chapitre dans la maturité de sa carrière et non pas dans sa jeunesse, Guy Beaujouan aurait été plus tendre envers le Haut Moyen-Âge et n'aurait peut-être pas gardé l'appellation de ténèbres pour caractériser la période s'étendant du 5e au 10e siècle. Ses propres recherches, comme les recherches d'autres, permettent en effet de déceler maintes lueurs en ces supposées ténèbres. Guy Beaujouan aurait donc certainement beaucoup nuancé, mais je ne suis pas sûre qu'il aurait radicalement changé de point de vue. En effet, lorsqu'à l'automne 2005, je lui ai annoncé que je prévoyais de consacrer une partie de mes conférences à la période du Haut Moyen-Âge, il m'a dit que c'était une excellente idée, mais il m'a demandé immédiatement si j'envisageais d'inclure la science arabe, c'est-à-dire la science qui s'était écrite pendant cette période, du moins à partir du IXe siècle, et à laquelle l'Occident latin commença à s'ouvrir timidement à l'extrême fin du Xe siècle et plus largement au XIIe. Il est évident que sous cette question, Guy Baugeois sous-entendait que si je me limitais pour le haut Moyen-Âge à l'Occident latin, je n'aurais pas à beaucoup parler de science. Il faut bien avouer que si l'on s'en tient au bilan des apports innovants, ce constat n'était pas faux. Pour Guy Baugeois, la science arabe était la référence obligée du médiéviste, et c'est en effet la référence que doit voir tout historien lucide. Cela n'empêche aucunement de tenter une réévaluation, toute proportion gardée, toute comparaison est impossible, cela n'empêche aucunement de tenter une réévaluation des efforts accomplis en Occident latin avant l'ouverture à la science arabe. Et je dirais qu'au fur et à mesure où nos connaissances, d'une part sur la science arabe en tant que telle, d'autre part sur les modalités d'introduction de celle-ci en Europe se précisent, il est possible de porter un nouveau regard sur la période occidentale supposée des ténèbres. Les recherches des toutes dernières décennies sur les premières infiltrations de sciences arabes à partir de la Catalogne, au temps du Gerbert d'Aurillac, pour faire court, à la fin du Xe siècle, et les recherches sur le XIIe siècle lui-même, aident à déceler, dans les siècles précédents, des curiosités, des tendances qui avaient pu échapper. Période cruciale pour l'ouverture à la science arabe, dans un foisonnement d'initiatives, le XIIe siècle, à travers sa production originale en latin, se situe à une confluence de traditions où le nouveau se mêle à l'ancien d'une manière souvent inextricable et déroutante pour l'historien s'il ne tente pas de retrouver le fil des siècles précédents. Les nouveautés arabes, le nouvel accès à des fondamentaux grecs qui ne subsistaient que de manière éparse, se trouvaient intégrés au XIIe siècle dans le cadre d'interrogations et de références culturelles qui, elles, n'étaient pas neuves et dont la présence explique justement le désir de traduire tant du grec que de l'arabe. Mais parmi les lignes de force de ce XIIe siècle foisonnant, l'une d'entre elles se distingue plus particulièrement, la volonté de réconcilier, d'accorder théorie et pratique, du moins au niveau du savoir livresque, le problème des liens existant entre théorie et pratique concrète, entre science et technique, pour user d'une expression anachronique, soulevant des questions plus redoutables et le plus souvent sans réponse. La mise en accord des savoirs pratiques avec des savoirs théoriques fut, me semble-t-il, une préoccupation des auteurs du XIIe siècle. C'est particulièrement clair en médecine, une discipline que je connais bien. L'un des leitmotifs des auteurs qui écrivirent à Salerne dans la seconde moitié du XIIe siècle fut de dire que s'il pouvait y avoir un medicus theoricus qui ne fût pas practicus, qui s'intéresserait à la science du corps humain par pure curiosité intellectuelle, dirions-nous, il ne pouvait y avoir de practicus qui ne fût pas theoricus. La pratique médicale devait être assise sur une connaissance du fonctionnement du corps humain, de ses maladies, des possibilités de traitement, une connaissance elle-même reliée à une représentation rationnelle du monde dans son ensemble. Les ouvrages de médecine, même lorsque leur finalité était pratique, devaient ainsi laisser entrevoir leur substrat théorique. Les écrits du haut Moyen-Âge, tels que nous les ont conservés les manuscrits, font au contraire apparaître, dans leur grande hétérogénéité, une dichotomie entre la transmission de savoirs pratiques, dont l'arrière-plan théorique, s'il a existé, n'est plus perceptible, et des œuvres qui contiennent un savoir théorique non seulement coupé de toute préoccupation pratique, mais intégré à un propos qui dépasse l'intérêt pour telle ou telle science du quadrivium ou pour la médecine et vise plus généralement à donner une représentation du monde et de l'homme tels que Dieu les a créés. Rechercher l'intérêt pour ce que nous appelons par commodité les sciences durant le Haut Moyen-Âge nécessite de consulter des types de témoignages écrits fort disparates. L'historien a d'abord affaire à des ensembles de textes rassemblés dans des recueils souvent hétérogènes qui ont une vocation pratique affichée, sans toutefois pour autant délivrer des informations suffisantes pour déboucher sur une pratique concrète. Les compilations de recettes en tout genre, remontant ou non à un fond grec, se transforment par addition ou soustraction d'un recueil à l'autre. Plutôt que dans leur contenu, c'est plus dans l'art d'agencer, de rassembler des informations, que se situe en ces compilations l'originalité. La motivation de ces compilateurs n'est pas toujours évidente. Était-ce un souci de préserver des textes anciens dans une sorte d'ambition antiquaire ou une réelle préoccupation de transmettre un savoir qui, malgré ses manques, pouvait servir dans la pratique? Les réponses ne sont pas toujours évidentes. Il n'empêche que ces compilations de textes, privées de leur arrière-plan théorique, ces recettes, furent copiées pour la plupart dans des monastères et par des moines. Or, leur contenu a parfois de quoi surprendre dans un cadre monastique que l'on a tendance à considérer comme obéissant rigoureusement à l'orthodoxie religieuse et à la morale chrétienne. Certains recueils offrent ainsi un méli-mélo étrange. Je prendrai l'exemple d'un manuscrit de la Bibliothèque nationale de France, le latin 11218, un vaste recueil, comme il y en a tant d'autres conservés, un vaste recueil rassemblant des textes copié à la suite du 9e au 10e siècle. On voit qu'il y a eu une continuité dans la confection de ce recueil. Ce ne sont pas des morceaux qui ont été mis ensemble a posteriori. Le recueil s'ouvre par une vie des Syncomes et Damiens et renferme des adaptations gréco-latines de textes médicaux. Mais il comporte aussi un lunaire pour permettre de juger de l'évolution d'une maladie, y compris vers une issue fatale, donc il y a même des pronostics de mort, tout cela d'après les phases de la Lune, ou bien même d'après des procédés qui relèvent sans aucun doute de la magie. Si l'on parcourt les innombrables recettes compilées en ce recueil, on trouve sans aucune mise en garde des recettes contraceptives et abortives mêlées à d'autres plus innocentes. La vie des Syncomes et Damien qui ouvre le recueil et le texte édificateur qui le suit, avec son discours sur les causes morales de la morbidité, ne doivent pas faire illusion. Les textes qui ont été mis à leur suite, vraisemblablement dans le même milieu, ne sont pas tous conformes à la morale chrétienne. Ce recueil est loin d'être un cas isolé. Rares sont les compilations de recettes médicales qui n'entremêlent pas au milieu de prescriptions purement pharmaceutiques des formules pieuses elles-mêmes mêlées à des incantations magiques à relent nettement païen. En tentant de retrouver les origines de la Mappe Clavicula, un recueil de recettes qui, a priori, visait à transmettre un savoir artisanal, pour faire des alliages, des vernis, des encres, des couleurs, etc. Robert Halleux et Paul Mevert, dans un article paru en 1988, ont en fait décelé que ce recueil était le descendant imparfait d'un texte alchimique grec dans la tradition hermétique. Or, ce texte de la Mappe Clavicula est mentionné dès le 9e siècle dans un catalogue de l'abbaye de Reichenau et un des manuscrits les plus anciens date de la fin du 10e siècle. Les auteurs de l'article concluent leur présentation de leur érudite analyse sur les origines de ce texte problématique par la phrase « Démocrite, c'est-à-dire le pseudo-démocrite, et Zosime, les autorités alchimistes, déguisées en artisans, ont hanté les ateliers monastiques. » Dans la même veine, dans son magnum opus paru en 2007 sur les Alcandriana, les traités astrologiques latins qui, dès le Xe siècle, intègrent des éléments venus du monde arabe, David Just montre que, malgré les condamnations dont elle avait été frappée par les autorités chrétiennes dès la fin de l'Antiquité, l'astrologie n'était pas absente de l'univers monastique. Il a pu ainsi recenser 150 manuscrits entre la fin du 8e siècle et le début du 12e siècle, contenant 400 textes ou compilations, proposant divers procédés pronostiques, faisant intervenir d'une manière ou d'une autre les astres. Dans tout ce fourmillement de recueils hétéroclites parvenus jusqu'à nous, dont on peut penser qu'une bonne partie des témoins s'est perdue, se décèlent des curiosités qu'aurait sans doute récusé violemment un saint Augustin. La coloration pratique de la production du haut Moyen-Âge se manifeste de manière plus orthodoxe dans les recueils de compute, ces recueils destinés à régler le calendrier en fonction des rythmes liturgiques avec la redoutable fixation de la date de Pâques. Ces recueils intègrent, en dehors de leur propos central, toutes sortes de considérations, non seulement arithmétiques et astronomiques, de savoir requis pour cet exercice, mais aussi historiques, bien sûr liturgiques, voire cosmologiques ou géographiques. Toute cette abondante littérature de compute, qui se développe particulièrement à partir de l'époque carolingienne, s'est vue réhabilitée ces dernières années par les spécialistes du haut Moyen-Âge. Toutefois, ces recueils, dans leur versant astronomique, si j'ose dire, ne peuvent être considérés comme de véritables traités d'astronomie, même s'ils furent un des véhicules d'un savoir et d'une curiosité envers la science des astres. Ils ont, par essence, une vocation pratique à calculer, à réfléchir sur le calendrier et à donner des modes de calcul. Mais ils véhiculent un savoir astronomique sans être de véritables traités d'astronomie. Dans un monde où la transmission orale jouait un rôle primordial, les diagrammes, placés au sein de glosses dans les marges des seuls textes à délivrer quelques savoirs astronomiques, premier rang desquels il faut citer le livre 8 des Noces de Mercure et Philologie de Marcianus Capella, le commentaire de Chalcidius au Timée de Platon ou le commentaire de Macrobe au Songe de Scipion, ce sont les autorités fondamentales pour le haut Moyen-Âge en matière d'astronomie. Donc ces diagrammes qui sont dans les marges, d'une manière qui n'est pas toujours facile à décrypter et qui mobilise l'érudition et l'ingéniosité des spécialistes, révèlent des curiosités et des résurgences de savoir que les écrits des 9e, 11e siècles ne laisseraient pas soupçonner et qui laissent supposer un enseignement oral et transmission de savoir qui permet justement d'expliquer ce que montrent ces diagrammes. Caractériser les intérêts de la période du haut Moyen-Âge nécessite de se livrer à un jeu de pistes au sein de ce qui ressemble parfois à un parcours labyrinthique. Au XIe siècle, toutefois, le genre des glosses s'étoffe et l'historien dispose d'un matériel écrit plus continu qui rend compte du développement des écoles cathédrales et de l'intérêt qui put s'y manifester pour l'arithmétique et l'astronomie. Le type de texte que je viens d'évoquer, qu'il s'agisse de compilations à caractère pratique au sein desquelles on peut ranger les recueils de compute, où les gloses qui s'étendent dans les marges des manuscrits, et a fortiori les diagrammes, sont dans leur écrasante majorité anonymes. Tout au plus, les spécialistes s'efforcent-ils de les rattacher à un milieu et de repérer d'éventuelles filiations. Mais durant le Haut Moyen-Âge, il y eut tout naturellement aussi de grands auteurs qui témoignèrent de connaissances scientifiques, même si celles-ci s'intégraient dans des ouvrages dont le propos était autre et plus vaste. S'imposent ainsi à l'esprit au moins quatre noms célèbres, Bède le Vénérable, Jean Scott Origène, Gerbert d'Aurillac et Abonde Fleury. Je n'évoquerai ici que les deux premiers, Bède le Vénérable et Jean Scott Origène, en m'attachant à caractériser l'intérêt qu'ils ont manifesté pour la nature des choses. Mais en préambule aux quelques propos décousus et impressionnistes que je vais tenir un peu légèrement, je citerai la réaction d'humeur dont fait état Barbara Obrist en introduction à son beau livre paru en 2004, La cosmologie médiévale, textes et images, tome 1, les fondements antiques. Donc, je vais vous lire cette réaction d'humeur. Concernant la période comprise entre la fin de l'Antiquité et le XIIe siècle, ni les notions cosmologiques dans leur ensemble, ni a fortiori celles sur le monde dans sa dimension spatiale et temporelle, n'ont suscité beaucoup d'intérêt chez les Eurydiques. Bon, c'est le sujet de son ouvrage. En effet, suivant un parti pris bien enraciné parmi les historiens, un épais rideau de spiritualité chrétienne aurait voilé le regard des hommes de cette époque. Le monde s'en serait trouvé amenuisé au point de ne plus avoir d'existence propre. Ainsi, la nature n'aurait été redécouverte qu'au XIIe siècle, après un long abandon dû à la victoire du christianisme à l'époque constantinienne. Avant cette renaissance, renaissance entre guillemets, la théologie aurait si complètement chassé la science que la composition et le fonctionnement du monde n'auraient plus suscité d'intérêt qu'à titre exceptionnel. La quête d'une explication rationnelle des phénomènes naturels et de leurs causes aurait cédé la place aux interprétations spirituelles, sotériologiques et ecclésiologiques. Selon une version plus réductrice, la curiosité scientifique aurait été en quelque sorte annihilée sous l'emprise des croyances et des craintes superstitieuses. Les esprits s'en seraient tenus à un émerveillement béat face au spectacle miraculeux de la nature. On constate pourtant l'existence, dès le début du VIIe siècle, d'une documentation textuelle et picturale qui a pour sujet principal, voire unique, l'univers physique, l'explication de sa composition, de son fonctionnement, ainsi que des causes naturelles des phénomènes. Mais cette documentation reste en friche, cachée derrière la barrière du XIIe siècle, conçue comme le début de l'histoire du rapport réel entre l'homme et la nature. La préhistoire de ce rapport est réduite à n'être que le réceptacle des contre-valeurs des préjugés ambiants. Je suis perdue dans mes notes. Voilà. Je partage un peu cette réaction d'humeur, d'une certaine manière. Le jugement porté sur la période antérieure au XIIe siècle est en effet souvent le calque, en modèle réduit, du jugement porté sur la période antérieure à la Grande Renaissance, celle du XVIe siècle. À force de vouloir mettre en valeur les nouveautés indéniables qu'apportent ces moments de civilisation particulièrement brillants que constituent le XIIe siècle d'abord, le XVIe siècle ensuite, les historiens qui s'en font les spécialistes ont tendance à ne voir que du neuf. Or, les choses ne sont pas si simples, et il faut y regarder de plus près pour situer au plus juste les réelles nouveautés, leur pertinence et leur importance. Autant les spécialistes du XIIe siècle que ceux du XVIe siècle mettent en avant, pour leur époque de prédilection, l'idée d'une nouvelle conception de la nature. On ne cesse de rabâcher Au XIIe siècle, il y a une nouvelle idée de nature qui apparaît. Au XVIe siècle, il y a une nouvelle idée de nature qui apparaît. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? En ce qui concerne le XIIe siècle, est mise en avant l'idée selon laquelle émergerait une étude des phénomènes naturels dégagée de toute interprétation allégorique et symbolique, laquelle interprétation aurait été de rigueur auparavant. Il est certain que des auteurs comme Guillaume de Conches au XIIe siècle explicitent assez clairement leur volonté d'être philosophe de la nature et leur volonté d'étudier la dite nature rationnellement. Ils explicitent leur démarche et ils font la propagande de cette démarche. Mais cela veut-il dire qu'il faut recouvrir la période antérieure du voile, de l'allégorie et du symbole ? Tout dépend des auteurs qu'on lit et de la manière dont on les lit. Bède le Vénérable a échappé dans l'historiographie à la caricature que je viens de citer en raison de sa maîtrise du compute et des références qu'il fit à des observations auxquelles est associée une découverte qu'on lui prête à propos du phénomène des marées. Et je citerai à cet égard les quelques lignes que lui consacrait dans l'Histoire générale des sciences dirigée par René Taton, mon vénéré et regretté maître Guy Beaujouin, avec pour toute formation la lecture de Pline et d'Isidore, Bède le Vénérable manifeste un goût des sciences pures qui fait déjà de lui un spécialiste du compute et de l'arithmétique. Il assure le triomphe de l'ère chrétienne selon la computation de Denis le Petit. Sa loquela pergestum digitorum restera la base du calcul digital en Occident. Mieux encore, il observe personnellement les rapports des marées avec les mouvements de la Lune, les vents, les solstices ou les équinoxes. Il note même leur variation d'un point à l'autre des côtes anglaises, ce qu'on appelle aujourd'hui l'établissement du port. Depuis le temps où Guy Beaujouin écrivait ces lignes, les aspects les plus techniques de l'œuvre de Bède en matière de compute, d'astronomie et de théorie des marées ont fait l'objet d'études approfondies, notamment de la part de Wesley Stevens et de Faith Wallis. En ce qui me concerne, je vais donner quelques exemples de la manière, de la manière dont s'insèrent dans quelques-unes de ses œuvres des considérations sur la nature des choses. Avant cela, je ferai un court rappel de sa biographie, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas par cœur la biographie de Bède le Vénérable. Bède est le produit d'une éducation monastique. Il a été confié, sans doute orphelin, à un monastère à l'âge de 7 ans, mais il ne s'est pas trouvé dans n'importe quel monastère. Il s'est trouvé dans le monastère de Saint-Pierre de Wehrmaus, à l'embouchure de la Wehr, qui baigne de Ham. Monastère fondé par un certain Benoît Biscop en 674. Le même Benoît Biscop fonda non loin de là un autre monastère, jumeau du premier, vers 681, à Jarrow. Benoît Biscop est un personnage des plus intéressants. Après avoir été, on pourra en faire un roman probablement, peut-être que pendant ma retraite je ferai un roman sur la vie de Benoît Biscop et celle de Bède par la même occasion. Ce sont des personnages romanesques quand on s'attache un peu à leur biographie et à leurs œuvres. Après avoir été au service d'un roi de Northumbrie, Benoît Biscop se retira du monde en 653, puis il se rendit à Rome aux fins d'édification religieuse et d'acquisition d'une culture. À son retour, il s'arrêta au monastère des îles de Lérin, où il devint moine, puis il rentra en Angleterre, et au cours de sa vie, il fit de fréquents voyages à Rome, affrontant les risques des voyages en mer, pour, ainsi que l'exprime Bède dans ses homélies sur les évangiles, je cite, nous rapporter les fruits de la science salvatrice qui nous permettent de rester dans la paix du cloître. Bède pouvait donc bénéficier sur place d'une bibliothèque grâce aux voyages incessants de Benoît Biscop à Rome, Ebède lui-même ne s'éloigna guère de son point d'attache sur les côtes anglaises. Il passe, après avoir été donc dans un premier temps dans le monastère de Wearmouth, il passa vers l'âge de 17 ans à celui tout proche de Jarrow, où il mourut en 735. On lui prête quelques voyages à York, enfin, vraiment dans les environs. Il est resté face à la mer, dans son monastère. S'il ne voyageait guère lui-même, il eut des correspondants qui lui fournissaient des informations. Et les spécialistes s'efforcent d'identifier ces correspondants. Les œuvres de Bède sont abondantes, depuis les commentaires bibliques jusqu'aux œuvres de grammaire et de poésie, en passant par sa monumentale histoire ecclésiastique du peuple anglais, et bien sûr, son De Temporum Ratione, qui nous intéresse au premier chef. Écrit en 725, le De Temporum Ratione, consacré donc au calcul des temps, rassemble en un seul ouvrage les propos qu'il avait tenus dans deux œuvres de jeunesse, le De Natura Rerum, de la nature des choses, et le De Temporibus, des temps. Si j'ai traduit le titre De Temporum Ratione par calcul des temps, c'est que calcul est en effet le sens le plus obvious en ce contexte de ratio. Mais le fait que cet ouvrage inclut en son milieu des considérations sur la nature des choses incite à penser qu'il faut mettre davantage sous le terme de ratio, ce qui le rend assez intraduisible, je dois dire, et que l'étude de la nature des choses est indissociable du calcul des temps. C'est le calcul, mais aussi la raison de ce calcul. Enfin, c'est assez difficile de traduire. Mais ce calcul des temps se fonde sur d'autres lois que celles de la nature, pas seulement, il n'y a pas que les lois de la nature. Et je vais traduire, c'est pas facile de traduire Bède le Vénérable, je vais vous donner ma traduction des passages du deuxième chapitre de ce De Temporum Ratione, donc sa grande œuvre de compute, mais aussi sur la nature des choses. Donc je traduis. Les temps prennent leur nom de temperamentum. Traduire temperamentum. Bon, tempora, temperamentum. Mot difficile à traduire en ce contexte. Fitzwallis, qui a donné une traduction anglaise de ce texte, majeur, bon, c'est mesure, c'est équilibre, c'est mesure équilibrée. Donc les temps prennent leur nom de temperamentum, soit parce que chacune de leurs étendues est bien réglée, mesurée, temperatum, séparément, soit parce que tous les cours de la vie mortelle sont mesurés, réglés, disposés, agencés, temperamentum, en instant, heure, jour, année, siècle et âge. Les âges comprennent à la fois les âges de la vie de l'homme et les âges du monde. Bon, je poursuis ma traduction. Il sera traité de chacun selon que le Seigneur l'a donné. D'abord, nous rappelons au lecteur que le découpage du temps répond à trois modes de calcul, trimoda rationé. Il vient soit de la nature, soit de la coutume, ou d'une autorité. Si dans cette énumération liminaire, Bède a cité la nature en premier, c'est en fait par l'autorité qu'il va commencer dans son développement pour terminer par la nature. L'autorité est elle-même double, donc celle qui calcule le temps. Elle peut être humaine, qui détermine le calendrier civil, dirions-nous. Sont cités les Grecs, les Égyptiens, les Romains. Ces calendriers sont fixés en fonction d'activités humaines, telles que les Olympiades ou les marchés. L'autre autorité est divine. Ainsi, nous dit Bède, le Seigneur a prescrit dans la loi de faire le Shabbat le septième jour, de délaisser l'agriculture la septième année ou d'appeler la cinquantième année jubilée. Car même s'il est prouvé que les peuples barbares ont des semaines, il n'est pas temps qu'ils tiennent cela du peuple de Dieu. Après l'autorité vient la coutume, consuetudo. Je cite, c'est par la coutume humaine qu'il est établi que le mois est évalué à 30 jours, alors que cela n'est conforme ni au cours du soleil, ni au cours de la lune. En effet, si l'on se réfère à ce qu'attestent ceux qui ont fait cette recherche, la lune, mis à part son sceau, prend 12 heures en moins, le soleil 10 heures en plus. Donc, après cette constatation que la coutume ne respecte pas l'astronomie, et après avoir d'une certaine manière tenu à distance l'autorité, Bède en vient à la nature. Lorsque la nature est le guide, on trouve que l'année solaire est faite de 365 jours et un quart, mais que l'année lunaire, si elle est commune, contient 354 jours, si elle est embolismatique, 384 jours. Et le cours complet de la Lune est compris en un cycle de 19 ans. Quant aux planètes, elles sont mues circulairement sur le zodiaque, chacune selon ses espaces de temps. Cette nature n'est pas, comme le veut la folie des païens, une déesse créatrice, une parmi plusieurs, mais créée par un seul Dieu, quand il a prescrit aux astres mis sur le ciel d'être les signes des saisons, des jours et des années. À travers ce chapitre assez remarquable, on voit comment une science de la nature peut se déployer en contexte chrétien. La référence aux dieux païens n'est pas placée au hasard, elle vient juste après la mention des planètes. Or, on remarque que dans ses œuvres, Bède, lorsqu'il se réfère aux planètes, éprouve quelque gêne à leur donner des noms de dieux païens. Par exemple, dans son commentaire à la Genèse, on sait que les commentaires au séjour de la création, l'hexaméron, sont les lieux privilégiés au Moyen-Âge et dans la lignée des pères de l'Église pour faire référence à la nature des choses, chacun selon son style. La création au quatrième jour des deux léminières et des étoiles était l'occasion pour Bède de faire un petit cours d'astronomie à l'usage des débutants. Ce cours d'astronomie au sein du commentaire biblique est introduit par les mots « verbi gratia », par exemple, lui donnant ainsi le caractère d'une digression dissociée de l'interprétation religieuse. Donc je traduis ce passage du commentaire à la Genèse de Bède. Par exemple, les étoiles qui à l'équinoxe de printemps se lèvent le matin, tous les ans au même équinoxe apparaissent dans le ciel, mais au solstice elles apparaissent soit le soir, soit le matin, se levant toujours à ce moment aux mêmes heures. Mais il y a des étoiles que les astronomes appellent des planètes, c'est-à-dire errantes, qui accomplissent leur révolution en de plus grandes années pour revenir au même lieu du ciel. En effet, à l'étoile qui est dite de Saturne, il faut 30 années, à l'étoile dite de Jupiter, 12 années, à l'étoile dite de Mars, 2 années solaires, pour que la révolution du ciel accomplie, elles reviennent au même lieu des astres où elles étaient avant. Le soin avec lequel Bède dénomme les planètes pour éviter leur confusion avec les dieux dont elles portent les noms suggère aussi que pour lui, l'étude de la nature des choses, telle que Dieu les a données à voir, aide à contrer les séductions des croyances païennes. De même, Bède se montre réticent à l'égard des philosophes. Pas un philosophe, il ne veut pas entendre parler de philosophie, c'est dans le paganisme. Pour autant, même dans ses commentaires bibliques, il ne confond pas les genres. La signification symbolique chrétienne est une chose, l'étude de la nature des choses, une autre. Je prendrai un autre exemple, celui de son commentaire au Cantique des Cantiques, à propos de l'encens. Le petit cours de botanique qu'il va introduire n'est en fait qu'une reprise d'Isidore, de Séville et de Pline. Plus que ce contenu, c'est la manière dont il s'insère dans le commentaire qui nous intéresse. Voyons donc comment il s'insère. Comme il est souvent fait mention de l'encens dans ce poème, avec une signification figurée, symbolique, tupiquée, il paraît bon d'instruire un peu sur sa nature ceux qui l'ignorent. La fin de la digression naturaliste est également clairement indiquée. Voici brièvement dit ce que nous avons trouvé selon les livres des anciens sur la nature et le lieu de l'encens. Il n'y a donc pas confusion des genres. les propos naturalistes sont bien distingués comme tels. Pour terminer ma trop rapide incursion dans l'œuvre de Bède le Vénérable, je citerai quelques phrases du fameux chapitre 28 du Temporum Rationé qui traite des maris. Ce chapitre s'intitule joliment « De concordia maris et lune », de l'accord entre la mer et la lune. Il commence par une évocation qu'on pourrait qualifier de poétique. Je traduis comme je peux. Admirons avant tout cette si grande union de l'océan avec le cours de la lune. L'océan qui a tout levé et tout couché de la lune couvre largement les rivages sous l'élan impétueux de son bouillonnement que les Grecs appellent rhéma, flux. Par le même élan rétracté, il les découvre et mêle ensemble abondamment et ajoute les unes aux autres les eaux douces venues des fleuves aux ondes salées. Nul doute que cette dernière phrase est inspirée par une contemplation familière. Bède est né près de l'estuaire de la Tyne et le monastère de Wermouth, où il vécut une dizaine d'années, est situé à l'embouchure de la Wer. Donc il voit justement les eaux douces et les eaux salées se mêler. Après une introduction quelque peu poétique, des informations plus techniques vont être données sur les rythmes respectifs de la lune et de la mer avec ses eaux mêlées. Et sans outrepasser le délai, la lune se retirant, l'océan lui-même les laisse, les eaux douces, à leur douceur native et à leur mesure. C'est comme s'il était tiré malgré lui par certaines aspirations de la lune en fonction de ce que nous avons enseigné ci-dessus. Je passe sur les développements où Bède, en s'appuyant notamment sur des sources irlandaises, tente de mettre en accord lune et océan au travers des calculs auxquels l'ont rompu son œuvre de computiste, pour en arriver aux différences notées suivant l'endroit de la côte, donc sur la supposée prétendue découverte de la règle de l'établissement du port. Après s'être référé aux commentaires sur le livre de Job de Philippus Presbytère, un disciple de Saint Jérôme, énonçant que, je traduis, ce grand épanchement de la mer océane qui va par les fleuves de toutes les régions et des patries se fait en un même temps, Bède donne son point de vue. Quant à nous, qui habitons à un endroit différent de la côte de la mer britannique, nous savons qu'à l'heure même où telle étendue de mer commence à bouillonner, une autre étendue de mer commence à se calmer. D'où il apparaît à certains que l'onde reculant d'ici revient ailleurs, et à nouveau ayant quitté les limites qu'elle avait atteintes, elle se hâte de revenir aux régions précédentes. Et c'est pourquoi, à un moment donné, une plus grande marée, quittant tel rivage, s'éloigne avec plus d'ampleur pour pouvoir, arrivant ailleurs, se répandre d'autant plus amplement. Ce qui peut être facilement saisi par le cours de la lune. Par exemple, cette mer, supposons vers le lever du soleil au solstice d'hiver ou vers son coucher au solstice d'été, la lune, en un quelconque de ses âges, soit qu'elle soit au-dessus de la terre ou au-dessous, a l'habitude de soulever la mer, mais au contraire, supposons vers le coucher du soleil au solstice d'hiver ou son lever au solstice d'été, elle a l'habitude de faire refluer la mer. En outre, en d'autres parties, la lune scelle le reflux de la mer à partir de cette région du ciel, de laquelle, en d'autres parties, elle en scelle l'afflux. Mais même, et voilà donc la règle d'établissement du port, mais même sur un seul et même rivage, ceux qui habitent plus vers le nord que moi ont l'habitude de recevoir et de voir refluer toute marée beaucoup plus vite que moi, alors que pour ceux qui habitent plus vers le sud, cela se produit beaucoup plus tard. Voilà, c'est tout, hein, c'est tout ce qu'il y a dans le texte de Bède. Je n'ai rien retranché. Donc certes, Bède n'a pas percé le secret des marées, il fallut attendre une phase avancée de l'époque moderne pour cela, et encore avec des manques. Les différences que notre moine anglais, sur la foi de ce que lui ont rapporté des correspondants dans les temps du flux et du reflux, selon les points d'un même littoral, ne donnent pas lieu à des évaluations précisément chiffrées. Les appréciations se limitent à beaucoup plus vite, beaucoup plus tard. Toutefois, L'exemple remarquable de Bède montre comment une science de la nature pouvait exister, même si le cadre de son épanouissement était celui d'une étude sur le calendrier liturgique et d'une lecture assidue des textes bibliques. Est-ce que j'ai encore du temps ? Donc je peux parler de Jean-Scott Érigène, un autre exemple. Le second auteur que je voudrais évoquer est Jean-Scott Érigène, dont les historiens des sciences se plaisent à relever et à commenter son intérêt pour l'astronomie, et notamment son option en faveur d'un système partiellement héliocentrique. Je vous lirai tout à l'heure le court passage en question, en le gardant dans le contexte où il apparaît. Mais au préalable, il n'est pas inutile de rappeler que si ces conceptions partiellement héliocentristes de Jean Scott, qui dérivent d'ailleurs en partie directement de Marcianus Capella, et sont reliées plus lointainement par les historiens au système d'Héraclite Dupont, donc si ces conceptions ont attiré depuis Pierre Duhem l'attention des historiens des sciences, c'est qu'à partir du XIIe siècle, l'Occident latin s'est conformé au système géocentrique de Ptolémée. Et c'est dans le cadre de ce système géocentrique que l'astronomie s'est beaucoup développée, qu'elle s'est vraiment, qu'elle est devenue une technique très assurée. Mais évidemment, ce n'était pas de l'héliocentrisme. Donc toute trace d'héliocentrisme pouvait passer, aux yeux des historiens, d'une manière totalement artificielle, il faut le dire, pour plus audacieuse. Il ne me sera pas possible, ne serait-ce que d'effleurer ici, la richesse de la pensée de Jean Scott, mais je peux dire d'emblée que ces allusions héliocentristes ne sont pas ce qui fait l'intérêt de son œuvre et ne donnent pas un savoir en astronomie profond, ni même un intérêt particulier. L'intérêt de l'œuvre de Jean Scott, et même pour l'historien des sciences, se situe plutôt sur le plan d'une réflexion sur les capacités intellectuelles qu'a l'homme d'appréhender les choses de la nature. C'est une œuvre essentiellement philosophique, totalement différente des réalisations d'un Bède le Vénérable. Je rappelle un peu la biographie de Jean Scott. Né en Irlande vers 810, Jean Scott est arrivé en France entre 840 et 847. Il y fut maître de l'école cathédrale de Laon et attaché à l'école du palais de Charles de Chauve. Il mourut vers 870. L'un des traits marquants de sa personnalité fut son activité de traducteur du grec, phénomène rare en Occident latin, dans le domaine de la théologie et de la patristique. Il n'a pas traduit d'ouvrage scientifique proprement parlé. Le noyau de ses traductions est formé par le corpus du pseudo-Denis l'Areopagite, un corpus remontant probablement à la seconde moitié du 5e siècle et proposant une synthèse chrétienne de conception néoplatonicienne. Les thèses du pseudo-Denis exercèrent une influence profonde sur Jean Scott, notamment en ce qui concerne la dynamique du cycle néoplatonicien de procession et de retour, ainsi que la théorie des théophanies, postulant que Dieu n'est pas connu directement, mais seulement à travers des apparitions. Le magnum opus de Jean Scott est le Perifuseon, parfois intitulé Perifuseon des natures, parfois intitulé assez improprement « De divisione naturae ». Enfin, c'est un titre qui a été donné par un éditeur à l'époque moderne et qui a été repris, mais ce n'est pas un bon titre. Écrit entre 864 et 866, le Perifuseon est d'une très grande cohérence intellectuelle, au plan savamment maîtrisé et au style d'une grande élégance, qui prend la forme d'un dialogue entre un maître et un disciple. Mais cette œuvre magnifique fit l'objet d'incessants remaniements de la part de son auteur lui-même et d'autres intervenants, dont la proximité avec l'auteur fait débat au sein des spécialistes, ce qui fait que nous avons des éditions tout à fait récentes, mais les éditeurs eux-mêmes ne sont pas d'accord sur le choix des manuscrits, et donc c'est un cas complexe. Je passe. Pour Jean Scott, les arts libéraux, trivium et quadrivium, sont le fondement de l'activité philosophique. La dialectique est l'instrument privilégié. La ratio associée aux arts libéraux permet d'établir la vraie connaissance, même en matière théologique, elle prime sur l'auctoritas. Le titre de Perifuseon ne doit pas tromper. Ce n'est pas un ouvrage d'histoire naturelle. L'ambiguïté est d'ailleurs levée dès le début du livre 1 avec une définition du mot nature dont l'équivalent grec phusis est donné. Nature est le nom générique de tout ce qui est et qui n'est pas. Omnium qui sunt et qui non sunt. Le mot nature réfère au tout universitas, englobant donc ce qui est et ce qui n'est pas. Quatre espèces de nature dont il va être successivement traité sont distinguées. La nature qui crée et n'est pas créée, c'est-à-dire Dieu lui-même, en tant que principe unique de toute chose. Deuxième espèce de nature, la nature qui est créée et qui crée, à savoir les causes primordiales qui émanent du principe unique. Troisième espèce, la nature qui est créée et ne crée pas, c'est-à-dire les êtres soumis à la génération selon le temps et le lieu, ce que nous appelons véritablement la nature, terme ultime de la procession. Et quatrième espèce, la nature qui ne crée pas et n'est pas créée, qui correspond au processus de retour vers le principe, en l'occurrence vers Dieu, fin ultime de toute chose. Cette quadruple division de la nature n'est pas sans analogie avec la répartition pythagoricienne des nombres, et l'arithmétique tient en effet une place importante dans l'ouvrage, en tant que les nombres sont envisagés à partir de leur premier principe, la monade. C'est dans un développement sur les catégories aristotéliciennes qu'intervient une énumération des arts libéraux avec une définition succincte de ce qu'ils sont. C'est dans la catégorie du lieu que cette énumération est introduite, le lieu étant ainsi défini. Le lieu consiste dans les définitions des choses qui peuvent être définies, car le lieu n'est rien d'autre que le pourtour par lequel chaque chose est encore dans des limites déterminées. Mais il y a de nombreuses espèces de lieux, il y a en effet autant de lieux que de choses qui puissent être circonscrites, qu'elles soient corporelles ou incorporelles. Je me contenterai de vous citer les définitions de l'arithmétique et de l'astronomie. L'arithmétique est la discipline constante et sans tâche des nombres soumis à l'examen attentif de l'esprit. Ce n'est donc pas la science des nombres tout court, mais la science des nombres tels qu'examinés par l'esprit. Esprit humain. L'astronomie, c'est le terme astrologia qui est utilisé là, est la discipline qui recherche les étendues, les mouvements et les retours des corps célestes en des temps déterminé. Après cette énumération donnée par le maître, le disciple constate, de ses arguments, je suis contraint d'avancer qu'il n'y a de lieu que dans l'esprit. Si en effet toute définition est dans la discipline et toute discipline dans l'esprit, nécessairement tout lieu, puisqu'il est la définition, n'est pas ailleurs que dans l'esprit. Étant donné que pour Jean Scott, les choses qui apparaissent aux hommes, et donc dans leur esprit, dans leurs effets, subsistent dans l'esprit de Dieu, en tant que cause, la considération par l'esprit de l'homme de la nature créée acquiert sa légitimité et, en quelque sorte, sa sacralité. La toile de fond sur laquelle apparaissent les connaissances scientifiques, enfin, je n'ai fait qu'effleurer, que brosser à grands traits cette toile de fond, mais je crois que c'était nécessaire. La toile de fond sur laquelle apparaissent les connaissances scientifiques de Jean Scott étant dressée, nous pouvons revisiter ce passage souvent cité de manière tronquée, faisant référence à des planètes tournant autour du Soleil. Ce passage se situe au livre 3, relatif donc aux choses créées et qui ne créent pas, monde naturel, la génération. Livre 3 qui prend la forme d'un hexaméron, d'un récit des six jours de la création. À plusieurs reprises en ce contexte, Jean Scott répète qu'il n'usera pas de l'exégèse allégorique que beaucoup d'autres avant lui ont illustré, mais qu'il dissertera, je cite, de la seule création des choses faites selon l'histoire. Histoire de la création. Concernant le deuxième jour de la création, Jean Scott est confronté au passage fameux qui dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Jean Scott s'efforce de montrer le peu de confiance qu'il faut accorder à l'idée selon laquelle il y aurait des eaux au-dessus du firmament. Un problème très important, justement traité au Moyen-Âge. Bon, je cite, je traduis Jean Scott. Il en est qui pensent qu'il y a au-dessus du firmament, c'est-à-dire au-dessus de la ronde des étoiles, des eaux très ténues. Mais la raison des poids et l'ordre des éléments les démentissent, éléments d'ordre naturel. D'autres tirent argument de la pâleur des étoiles pour supposer l'existence au-dessus du ciel d'eau semblable à des vapeurs presque incorporelles. Ils disent en effet que les étoiles sont froides et donc pâles. Jean Scott va proposer un très long développement dans lequel il explique que la force du feu ne devient ardente que lorsqu'elle trouve une matière qu'elle puisse consumer. Les rayons solaires qui se diffusent à travers les étendues éthérées ne brûlent pas. Dans une nature très subtile et spirituelle, ils ne trouvent pas une matière combustible. Plus ils descendent vers les espaces d'un air épais, ils deviennent plus ardents. Lorsqu'ils montent vers les espaces très ténus du monde, proches d'une nature spirituelle, ils n'engendrent aucune chaleur, manifestant seulement une action d'illumination. Les corps célestes éthérés qui y sont établis sont toujours lumineux, mais dépourvus de chaleur. Pour cela, froid et pâle. Bon, je traduis maintenant. Par conséquent, la planète appelée du nom de Saturne, voyez, on voit aussi cet embarras avec les noms des planètes, à un moment où le paganisme est encore un peu là, mais malgré tout, malgré ce qu'on dit. Par conséquent, la planète appelée du nom de Saturne, puisqu'elle est proche des rondes des étoiles, est dite froide et pâle. Le corps du Soleil, comme il occupe l'espace médian du monde, du fait que, comme le disent les philosophes, il y a un même intervalle entre la Terre et le Soleil qu'entre le Soleil et les étoiles, on comprend qu'il tient une certaine position médiane. En effet, il reçoit pour sa subsistance des natures inférieures une certaine corporalité et des natures supérieures une subtilité spirituelle, et en lui il rassemble les qualités comme contraires de chacune des deux parties du monde, à savoir la supérieure et l'inférieure. Grâce à ce conflit, comme pesé par les deux plateaux d'une balance, il ne lui est pas permis de quitter sa position naturelle. Je coupe une partie. Par conséquent, il semble être d'une couleur éclatante, une couleur qui est intermédiaire entre le pâle et le rouge, recevant pour tempérer son éclat une partie venant d'en haut de la pâleur des étoiles froides et une partie venant d'en bas de la rougeur des corps chauds. Quant aux planètes, qui sont mues circulairement autour de lui, elles changent leur couleur suivant les qualités des espaces qu'elles traversent, je veux dire Jupiter, Mars, Vénus, Mercure. Celles-ci parcourent toujours leur cercle autour du Soleil, et c'est pourquoi, quand elles sont autour du Soleil, elles montrent des faces claires, quand elles sont au-dessous, des faces rouges. Fin de citation sur l'héliocentrisme de Jean Scott. Voici donc les tenants et aboutissants de l'héliocentrisme de Jean Scott, pour lequel, d'ailleurs, dans certains passages, il n'y a pas de doute que la Terre reste immobile au centre du monde. Ce qui intrigue, c'est que Marcianus Capella, que Jean Scott a glosé, ne fait que tourner Mercure et Vénus autour du Soleil, et non Jupiter et Mars. Jean Scott s'est-il inspiré de diagrammes fournissant la version qu'il propose ? Cela suscite l'embarras des spécialistes. Quelle que soit la profondeur de ses connaissances en astronomie, ses arguments ne sont avancés ici que pour réfuter l'idée qu'il y ait de l'eau au-dessus du ciel. La pâleur vue de la Terre peut naître de l'absence de chaleur. Le quatrième jour de la création, avec justement la création des luminaires, va donner lieu à des plus amples digressions astronomiques consacrées ici au calcul de distance entre la Terre et la Lune, calcul de la circonférence de la Terre, des dimensions de la Lune, la distance Terre-Soleil, et là, Jean Scott met en œuvre un certain nombre de sources, et il constate des divergences entre les auteurs, et qui, selon lui, sont imputables à des valeurs différentes des unités de mesure, et notamment de la mesure du stade. Donc il consacre de très longs développements au calcul et aux différentes de calcul de mesure du stade. Mais après avoir... Donc les spécialistes de l'histoire de l'astronomie sont beaucoup penchés, évidemment, pour voir comment Jean Scott avait utilisé des sources, etc., sur ces calculs. Mais quand on sait ce que j'ai fait dans le cadre de mes cours, quand on s'est appuyé, si j'ose dire, c'est tous ces calculs, on se rend compte, en fait, qu'au fil de ces calculs compliqués, c'est au nombre que souhaite revenir Jean Scott et à leur dérivation de la monade, le principe unique. Donc c'est tout cela, enfin, tous ces calculs compliqués pour arriver à des nombres qui permettent de faire un développement sur la dérivation des nombres, d'un nombre du principe unique. Et dans ce, bien sûr, dans ce développement sur le quatrième jour de la création, à nouveau, un certain héliocentrisme apparaît. Il est dit que certains luminaires, comme la Lune, ne sont pas loin de la Terre, que certains sont au milieu du monde, comme le Soleil et toutes les planètes qui sont mues circulairement autour de lui. Mais il n'empêche que la Terre est posée au milieu de la sphère du monde, de la même manière, dit Jean Scott, que l'on voit le centre au fond d'un cercle ou d'un globe, car la Terre tient au sein des créatures le lieu le plus bas et le milieu. Les interférences constantes, et d'ailleurs ce n'est pas le propre de Jean Scott, ni même du haut Moyen-Âge, les interférences constantes entre la Terre, comprise comme l'un des éléments, l'un des quatre éléments, donc l'élément le plus pesant, et la Terre comme composante, d'où son immobilité, et la Terre comme composante de l'univers, donc ces interférences rendent les représentations cosmologiques de Jean Scott assez complexes. Sans compter que le modèle que nous avons vu à l'œuvre à propos du Soleil, qui reçoit des influences d'en haut et d'en bas, sans compter que le modèle d'une rencontre entre mouvement descendant et mouvement ascendant, qui parcourt toute son œuvre, explique, pour une part, les explications données sur le rayonnement solaire. Donc je vous ai resitué ces quelques lignes héliocentristes dont parlent les historiens des sciences. Donc si l'œuvre de Jean Scott peut prendre place dans l'histoire des sciences, ce n'est pas, à mon sens, en isolant de leur contexte quelques bribes d'astronomie ou d'arithmétique. C'est plutôt, comme je l'ai déjà dit, par la réflexion qu'elle manifeste sur la place des sciences et de la raison et la capacité humaine à comprendre la nature des choses. J'en arrive à ma conclusion, rassurez-vous. La diversité et le foisonnement des productions écrites ou figurées que nous a laissées le haut Moyen-Âge incitent à s'intéresser plus aux motivations de leurs auteurs, célèbres ou anonymes, qu'au contenu. Depuis la curiosité, parfois coupable, qui pousse à accumuler des informations de toutes sortes, jusqu'à une véritable investigation tendant à rendre intelligibles des phénomènes naturels observables, ou à une réflexion d'ordre philosophique englobante, la gamme est large. Et pour conclure, j'emprunterai une phrase à un récent article d'un Jean d'Ombre, paru dans un numéro de la revue des Archives internationales d'histoire des sciences, le dernier numéro paru, je crois, évoquant l'œuvre de René Tatton. Je cite cette phrase. Qui, dans cet article, tente de situer la démarche de l'historien des sciences aujourd'hui et en relation avec l'œuvre de René Tatton. Reste encore la vulgaire question du mobile, la seule qui compte, et pas seulement dans un roman policier. Qu'est-ce qui fait courir le savant? Plus que des interdictions de courir, le haut Moyen-Âge nous fournit, au contraire, une gamme variée de mobiles. Et je crois que c'est un excellent exemple, justement, pour insister sur cette question du mobile d'importance dans la manière d'envisager l'histoire des sciences et surtout de l'écrire. Voilà, je vous remercie. Avec 2 ans de conférence à l'école pratique de haute études sur le sujet.
Ça se tient très bien parce que c'est à partir de cet article que vous avez sollicité et vous finissez sur une phrase de Jean Dôme, il y a le colloque international consacré à René Pérez.
Oui. J'ai beaucoup aimé son article, je dois dire. Voilà. Il vient de me l'envoyer. Donc je l'ai lu et ça tombait à pic.
Hein. C'est aussi circonstanciel parce que Jean Dôme est un ami de la maison.
C'est un ami aussi.
Voilà.
J'aurais dû vous montrer des textes, mais bon, j'aurais pu vous montrer que du latin. Je vous l'ai traduit. Sans mes traductions, je ne les diffuse pas. Bah, sauf si je publie hein, moi-même. Mais les traductions de travail, comme cela, doivent rester orales, parce qu'il faut les affiner.
Oui, bonjour. Je n'ai pas compris le rapport entre les 4 natures, nature qui crée...
Oui, c'est dans un cadre néoplatonicien.
Avec Scott Erigène et avec les nombres pythagoriciens, si vous vouliez.
Mais ce sont c'est sur les... Bon, je n'ai pas voulu trop développer. C'est les nombres qui engendrent et ne sont pas engendrés, ceux qui... voyez. Tous ces développements et c'est vrai que c'est tout à fait c'est très beau. Il y a des passages. Bon, je souhaitais parler plutôt de l'astronomie, mais il y a de très beaux passages sur les nombres dans l'œuvre de Jean Scott, bon, purement spéculatif. Hein. Et on voit qu'il joue. Enfin, son obsession, c'est le principe unique, la monade. Hein. Les émanations à partir de la monade, donc les manières d'engendrement, de non-engendrement, c'est fondamental dans sa pensée. Bon, je ne sais plus où je voulais en venir avec ça, mais enfin, ça ne fait rien. Ce qui est intéressant aussi, parce que on parle beaucoup du symbolisme des nombres, etc. Et ce qui est amusant, justement, c'est que Jean Scott s'en amuse de ça. À propos du nombre 7, il nous dit des choses incroyables. Et puis lui-même s'en sert. Je vous ai parlé tout à l'heure de toutes ces longues mesures, hein, tous ces longs développements, mais vraiment, ça fait des pages et des pages sur les distances de la Terre au Soleil, etc., la valeur du stade selon X ou Y, des chiffres incroyables. Et là, on se voit que, après s'être un peu moqué d'une certaine manière du symbolisme des nombres, il l'utilise lui-même, il l'utilise à sa guise. Et justement, avec ses mesures de stade, etc., il va privilégier le nombre, je crois que c'est le nombre 6, à cet endroit, où je ne me souviens plus exactement de quel nombre, enfin, peu importe, d'ailleurs, quel que soit le nombre, il va se servir d'un multiple quelconque pour en revenir à sa monade. Mais c'est la question de tous ces nombres qui sont un peu aussi dans la tradition boétienne, de l'institution arithmétique de Boès, de manière dont les nombres s'engendrent ou ne s'engendrent pas l'un l'autre. Les nombres premiers, etc. Donc, c'est un lecteur de Boès, l'institution arithmétique de Boès. Alors, évidemment, quand on parle du haut Moyen-Âge, on ne sait jamais s'il faut parler de Boès et d'Isidore de Séville. Enfin, non, ce sont quand même des monuments. Bon, même si on est intermédiaire entre l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge, mais enfin, bon, ce sont des monuments à part entière qui ont été très utilisés, justement. Bon, c'est plus des sources que des. On ne peut pas quand même les considérer comme représentatifs d'une période. Je vous invite à lire Bède le Vénérable, il est très intéressant. Non ? Et c'est vrai qu'on sent le vent du large en le lisant. On voit qu'il a vécu au bord de la mer.
Merci beaucoup, Daniel Jacquard. Bonsoir à tous, merci.
Bonsoir, il est 8 heures.